Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, intriga, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Camille est l'heureuse maman d'un petit Gaspard qui a seulement quelques mois. Pour devenir maman, Camille a dû partir à l'étranger et faire appel à une mère porteuse, car son traitement contre le cancer ne lui permettait pas de vivre une grossesse. Dans cet épisode, Camille nous raconte comment son mari et elle ont décidé de recourir à la GPA, encore interdite en France. Elle nous raconte son parcours pour trouver une mère porteuse en Grèce et comment tout s'est déroulé jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux à Paris, en famille. Bonne écoute. Bonjour Camille, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans le tourbillon.
Merci Shane d'être là.
Alors tu as 26 ans.
Ouais,
tu es mariée. Depuis combien de temps vous êtes en couple avec ton chéri?
Alors, à chaque fois, j'ai du mal, mais ça fait à peu près 6 ans. Mais en fait, on a vécu 3 ans à distance.
Est-ce que tu as toujours su que tu voudrais être maman?
Bah oui, nous, avec mon mari, c'est vrai que dès qu'on s'est mis ensemble, on savait qu'on voulait une famille nombreuse, donc de 3-4 enfants. Voilà, c'était inscrit. On en rêvait.
Et alors, il y a quelques années, on t'apprend que tu as une maladie grave.
Ouais.
Il s'agit de quoi?
Alors, en fait, donc en 2016, on m'a découvert un cancer généralisé du poumon, mais avec une mutation. Donc, en fait, cette mutation, elle me permet de répondre quand même bien à un traitement qui est plutôt confortable. On appelle ça de la thérapie ciblée. Et donc, c'est un traitement que je peux prendre chez moi. Donc, ce n'est pas la chimiothérapie classique qui fait parfois perdre les cheveux. Ou voilà, c'est juste des comprimés que je prends chez moi. Et bon, j'avais eu un petit peu de radiothérapie en plus, mais voilà, plutôt confortable quand même comme traitement par rapport au traitement contre le cancer habituel.
Et alors, comment tu réagis quand on t'apprend cette...
Alors, bah, quand on m'apprend ça, évidemment, hein, comme c'est le choc pour tout le monde, pour ma famille, pour Alexandre, qui n'était pas encore mon mari à cette époque. Et donc là, tout s'écroule. Mais dès le lendemain, en fait, j'ai essayé de puiser toute la force que je pouvais pour essayer voilà, d'aller de l'avant, de décider de me battre et de m'en sortir. Et parce qu'au début, c'est vrai, quand on nous apprend qu'on a un cancer métastasé, en plus, j'avais découvert ce diagnostic toute seule parce que je travaillais à l'hôpital. Donc, j'avais regardé mes résultats toute seule sur la plateforme. Donc là, c'était quand même assez costaud. Et en fait, donc j'ai été déjà très entourée par mes amis, etc. Et en fait, le lendemain, je me suis dit, allez, je me bats. Donc, j'ai ouvert un groupe sur Facebook pour parler de cette maladie. Mais en gardant c'était vraiment un groupe basé sur l'humour. Je voulais pas que les gens aient pitié. Ou voilà, je voulais juste... C'était plus simple pour moi. C'était une façon de me protéger. En fait, je donnais les résultats de mes examens, de mes scanners, etc. au fur et à mesure. En tournant ça avec un petit peu de dérision et toutes les personnes ne devaient pas prononcer le mot cancer ou métastase sur le groupe, donc tout le monde devait suivre un peu le rythme du groupe et ça a vraiment bien marché et du coup c'était que du positif et comme ça préservait en fait ma famille et Alexandre, mon mari et moi-même parce que sinon on était harcelés de messages pour savoir ce qui se passait, mes consultations, etc.
Et comment tu l'appelles, du coup, si tu l'appelles pas cancer ?
Je l'appelle... Je n'avais pas l'idée. Donc, du coup, je l'ai appelé mon truc. Donc, le groupe, c'est ma bataille, mon truc et ses petits trucs. Donc, ces petits trucs, c'est les métastases. Et en fait, quand j'ai appris ça, moi, je me suis dit, bon, je suis couverte de métastases. J'en avais à la tête, au foie, au poumon, aux os, enfin, vraiment partout. Et bon, j'ai fait des études médicales. Je me suis dit, bon, là, ça sent pas bon. J'en ai pour 3-4 mois, si ça se trouve, c'est fini. Et en fait, j'ai eu des amis de ce milieu-là très positifs qui m'ont dit de m'accrocher et qu'il y avait parfois des cancers métastasés qui se passaient quand même bien et que voilà, il fallait y croire. Et, Et donc j'y ai cru, on y a tous cru. Et en fait, en l'espace de 2 mois, avec cette thérapie ciblée, j'avais pratiquement plus de métastases. 70% des métastases avaient disparu. Et donc c'était vraiment que du positif. Du jour au lendemain, en fait, je réapprenais. Oui, parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que du coup, quand j'ai appris, j'étais en pleine forme avant d'apprendre le diagnostic, j'avais juste un petit peu mal au cou et au dos. Et quand j'ai appris le diagnostic, en fait, j'ai fait comme un déni de grossesse. J'assimile vraiment ça au déni de grossesse parce que lorsque j'ai appris le diagnostic, du jour au lendemain, je ne pouvais plus marcher. En fait, j'étais effondrée dans mon canapé chez mes parents. J'étais rentrée chez mes parents et j'étais mais alitée, quoi. C'était impossible de marcher tellement j'avais mal au dos, mal au cou. Tous les symptômes, en fait, refaisaient surface, mais en une journée ou 2 journées, on refait surface. Et en fait, en prenant ce médicament, donc évidemment, les premiers jours, je vomissais, il fallait m'habituer à ce traitement qui est quand même assez costaud. Et puis, au bout de 4-5 jours, tous les jours, je réapprenais à marcher, je pouvais monter quelques marches, je rejouais au tennis avec mon père. Enfin, les effets ont été, mais très rapides. Et c'est ce qu'il me fallait, parce qu'il paraît que je suis un petit peu impatiente. Il me fallait un traitement efficace. J'avais pas de... Et donc, en l'espace d'un mois, en fait, d'un ou deux mois, déjà, il y avait une grosse partie des métastases qui avaient disparu. Donc, j'étais super bien. Donc, j'ai repris le boulot. Bah, 3 mois plus tard, je reprenais le travail. Et voilà. Et Alexandre m'a demandé en mariage juste avant que je reprenne le travail et avant mon scanner, mon premier scanner de contrôle. Donc, c'était une belle preuve d'amour aussi qui m'a faite. Et entre la période, en fait, où on m'a découvert cette maladie et le début de ma reprise de... Enfin, la reprise de mon travail, je terminais donc mon internat en dentaire. Et donc, avec Alexandre, on avait vécu avant tout le temps à distance. Et là, tout d'un coup, on était tous les deux tout le temps ensemble à Paris. Au départ, il venait me voir chez mes parents parce que j'étais chez mes parents à Nantes. Puis après, dès que ça allait mieux, je suis vite venue à Paris. Et on voyageait tout le temps, on faisait plein de choses. Parce que du coup, bah, moi, j'avais peur quand même un petit peu de partir, évidemment. Et en fait, quand on voyait que ça allait super bien, bah, je me suis dit, bah non, je vais encore être là. Parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, la sécu nous donne Enfin, on est un petit peu indemnisé pendant la maladie et tout. Puis en fait, bah, non, ça marchait plus parce que j'allais rester là. Donc, ça allait marcher, en fait. Si ça se trouve, j'allais pas partir si vite. Donc en fait, à chaque fois que... J'étais complètement ruinée pendant cette période parce que dès que je voyais une jolie robe ou que je voulais partir en voyage, je me disais, on n'a qu'une vie, il faut y aller. Alors du coup, je dépensais sans compter, je partais en voyage avec ma meilleure amie en Guadeloupe, avec Alexandre en République Dominicaine, on partait tout le temps. Sauf qu'à un moment donné, bah, j'étais toujours là, donc il a fallu que je retravaille parce que là, j'étais fauchée. Voilà pour la petite histoire. Et donc, il m'a demandé en mariage en décembre 2016, donc 2 mois après le diagnostic. Et j'ai eu mon scanner en janvier. Et le scanner montrait du coup qu'il n'y avait pratiquement plus rien au niveau des métastases. Voilà.
Et alors, à quel moment le sujet de la maternité a été abordé par rapport à la maladie ?
Alors, bah, vu que ça allait très bien en janvier, on a pensé à ça. Moi, en fait, au départ, ma vie, elle était un petit peu planifiée. Je suis la reine des listes, des plannings, tout ça. Et puis, en fait, là, je me rends compte qu'il faut arrêter toutes ces bêtises. Enfin, que c'est normal d'avoir des projets. Mais après, en fait, la vie, elle décide complètement de... On peut essayer d'avoir des envies, tout ça. Évidemment, c'est normal. Mais en fait, si elle veut nous rattraper, si elle veut nous envoyer un fardeau comme elle l'a fait avec nous, ben... Là, c'est pas dans mon planning, et donc il a fallu composer avec et modifier le planning. Et du coup, bah, comme ça allait bien, on a repensé à la maternité. Sauf que, évidemment, avec mon traitement, moi, quand j'ai annoncé à mon oncologue, je lui ai dit... Déjà, à chaque fois que je voyais mon oncologue, j'arrivais avec une petite liste de questions. je devais le rendre... J'étais insupportable comme patiente. Déjà, j'étais trop optimiste aussi. Ça l'a un peu perturbée.
Ah oui.
Parce qu'il ne s'attendait pas, je pense, à... Mais du coup, j'y croyais. Donc, voilà. Et donc, je lui ai parlé de la maternité. Je lui ai dit qu'on voulait des enfants, 3-4 si possible. Il m'a regardé avec des yeux de merlan frit. Il s'est dit, oula, il va falloir que je lui dise quand même. Et en plus, je sais par derrière, par des copines internes qui connaissent ses internes à lui, qu'il a été perturbé par cette question. Il ne s'attendait pas à ce que je lui pose cette question en plein cancer généralisé depuis 3 mois. Quoi. Ouais. Et en fait, il nous a dit, bah écoutez, peut-être qu'un jour, je pourrais vous accompagner sur un projet de grossesse, mais pas pour l'instant. En plus, on n'a aucun recul avec votre traitement. C'est un traitement qui est nouveau, qui marche certes très bien, mais on peut quand même développer des résistances. Et en plus, là, porter un enfant, on ne connaît pas les effets en fait, tératogènes du traitement sur le fœtus. Donc, il m'avait dit peut-être un jour, mais en tout cas, pas pour l'instant. Et ça, moi, je suis têtue comme ça n'a pas permis. Donc, ce n'était pas possible d'entendre ça, en fait. Et donc, j'ai contacté mes amis internes en gynéco et spécialisés aussi même dans les cancers gynéco. Et elle m'a donné le contact de quelqu'un, d'un médecin à Paris, qui fait l'aide à la procréation dans le cadre de femmes malades. Et donc là, on est allé le voir avec Alexandre et on lui a dit, bah voilà, l'oncologue était quand même d'accord pour qu'on rencontre cette personne, mon oncologue. Hein. Et on rencontre cette personne et je lui dis, bah voilà, on aimerait des enfants et je sais que la GPA est inégale en France, mais on aimerait se tourner vers cette solution-là parce que je ne peux pas porter mon enfant. Je ne peux pas porter mon enfance, mais en fait, on m'avait annoncé que mes ovocytes, j'en avais des tonnes, et donc mes ovocytes étaient sains, les spermatozoïdes d'Alexandre aussi, normalement. Et donc tout était sain, mais on pouvait pas s'en servir. Donc je faisais quoi, moi, de mes ovocytes? J'avais pas le choix, il fallait que je les utilise. Donc, et quant à l'adoption, il y avait aussi l'idée de l'adoption. Adopter quand on a un cancer généralisé depuis quelques mois, enfin là, c'est juste impossible. Et en plus, se lancer dans une procédure d'adoption, enfin, tout le monde sait que ce n'est pas forcément simple. Ça dure parfois des années. Il faut renouveler son dossier parce qu'on n'est jamais... Enfin, voilà, c'est très compliqué. Et je crois qu'après ce qu'on avait eu, on n'était pas non plus prêt à faire ça. Mais de toute façon, on n'aurait pas pu être candidat, entre guillemets, à l'adoption. Donc, en fait, dans notre cas, en l'occurrence, il restait la GPA, quoi. Si on voulait utiliser mes ovocytes et les spermatozoïdes d'Alexandre. Donc, on lui a parlé de la GPA. On lui a dit, écoutez, on sait que c'est illégal en France, mais on va se tourner vers la GPA. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider ou pas?
Donc, c'est la gestation pour autrui. Exactement. Faire appel à une mère porteuse.
Exactement. Voilà. On fait appel à une mère porteuse. Et après, on peut très bien faire appel à un don de spermatozoïde ou un don d'ovocyte. Mais nous, dans notre cas, c'était vraiment notre patrimoine génétique, puisque notre patrimoine génétique était fonctionnel. Donc, c'était vraiment la solution de choix quoi, pour notre cas. Et en plus, moi, on m'avait annoncé que j'étais hyper féconde et du jour au lendemain, que je ne peux pas porter mon enfant. Donc, c'est ça qui est pas facile à accepter. Et ça a même été presque plus dur à accepter que le diagnostic, en fait. Parce que la maternité, c'était le désir de maternité, d'avoir un enfant, c'était l'après-cancer. Et le fait de me couper cette envie de maternité, c'était voilà, me couper ma vie tout court. Enfin, voilà, ok, j'ai eu un cancer, voilà, je me guéris de mon cancer, mais derrière, je peux pas. Voilà. Donc, on avait envie de fonder une famille. Enfin, c'était vraiment dans nos tripes avec Alexandre. Donc, et là, le gynécologue, vraiment très gentil, nous a conseillé un de ses collègues en Grèce, donc dans le nord de la Grèce, à Thessalonique. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est vrai que quand on tape GPA sur Internet, je pense que n'importe qui tape GPA sur Internet, on voit des articles tous beaucoup moins positifs que ce qui peut parfois arriver. Enfin, c'est vraiment plus négatif, quoi, alors que parfois ça se passe bien et du coup, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui et que j'avais envie de te témoigner tout ça.
Parce que qu'est-ce qu'on dit de négatif, par exemple? Qu'est-ce que tu as pu lire, toi, au moment où tu t'informais?
Déjà, qu'on retrouve beaucoup le mot esclavagisme. En fait, on considère que les mères porteuses sont considérées comme des esclaves. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur que les mères porteuses partent avec l'enfant. On pense que c'est pas cadré, que ça se fait dans des pays sous-développés où justement les femmes font ça que pour l'argent. Donc en fait, des choses qui sont vraiment pas saines, alors que parfois c'est sain, en fait, ça se passe bien. Et voilà, donc je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pris le parti d'en parler un petit peu. Et parce que voilà, je voulais montrer un autre regard sur la GPA. Après, je pense pas que je... J'ai pas la prétention de faire changer les choses, mais en tout cas, j'ai des retours déjà super positifs sur ça. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il faut essayer d'en parler d'une autre façon. Et voilà. Parce qu'il y a des pays où c'est vraiment pas cadré et d'autres où c'est cadré. Donc,
ouais. Et toi, ça t'a fait peur, justement, de lire tout ça au départ?
Très vite, en fait. J'ai lu rapidement. Mais en fait, le fait qu'on ait l'appui, enfin, le soutien de ce médecin qui nous recommande quelqu'un vraiment de bien. Ça nous a réconfortés, en fait. Mm. Nous, on a toujours été, on a toujours été adressés aux bonnes personnes dans cette maladie. Je ne sais pas si c'était du fait de venir de ce milieu-là ou pas, mais on a eu la chance quand même. Moi, j'ai toujours été suivie, mais à la perfection. Enfin, je peux rien dire sur ça. Parfois, je dis que mon oncologue est un peu pessimiste et tout, mais je sais que c'est l'un des plus connus dans ce type de maladie et que c'est vrai que parfois, il faut juste me ramener un peu les pieds sur terre parce que j'ai tendance à...
Donc, il vous oriente vers la Grèce ?
Voilà, vers le nord de la Grèce, donc Thessalonique. Et là, très vite, en fait, lui, il s'est occupé de ma stimulation hormonale. Donc, j'ai arrêté mon traitement pendant 15 jours. Donc, je ne prenais pas de risque à arrêter mon traitement 15 jours. Donc, j'ai réalisé la stimulation hormonale en France. Et après, je suis partie, donc avec mes petits ovocytes. on a pris l'avion, j'étais chargée à bloc. Et du coup, on est arrivé à Thessalonique. Et donc, tout s'est fait très vite. Mon mari a été prélevé, moi, j'ai été prélevée. On a rencontré deux mères porteuses. Et puis, on a rencontré l'avocat. On a eu des tests psychologiques aussi, parce que et la mère porteuse et le couple... d'intention à un test psychologique avant de se lancer dans cette procédure. On prend pas des gens trop torturés. Il faut, voilà. Et on a rencontré donc le médecin aussi qui nous a expliqué la procédure, tout ça. Donc là, en rencontrant les deux mères porteuses, comme on savait qu'il y avait plus de demandes entre guillemets que d'offres, plus de couples demandeurs de mères porteuses, à un moment donné, on s'est dit bon bah, on va en choisir une des deux. Et donc, on en a choisi une des deux, mais on n'était pas plus emballés que ça, en fait. On est rentrés en France. Et donc, on avait toute la paperasse qui était déjà en cours en Grèce. Eux, ils se sont occupés de faire les embryons, mais ils n'avaient pas encore implanté la mère porteuse. Et là, l'été 2017, on me découvre des métastases à la tête. J'ai une petite résistance au niveau de mon traitement. Donc, il faut changer de traitement. Donc, je change de traitement. Et là, on n'est pas suicidaire non plus. Donc, on a décidé de mettre en stand-by la GPA, qui n'avait pas encore vraiment commencé au niveau de l'implantation. Elle n'avait pas eu lieu.
Donc là, à ce moment-là, les ovocytes et...
Tout était au congélateur.
D'accord.
Voilà.
En Grèce.
Oui, tout en Grèce.
D'accord.
Ça aurait été trop compliqué, en fait, de se faire prélever en France et de devoir justifier, pour des raisons de recherche ou je ne sais quoi, l'envoi des ovocytes. Donc, c'est pour ça que le médecin nous a vraiment bien conseillé. Il nous a dit, faites la stimulation en France et vous vous faites prélever en Grèce directement. Comme ça, ils ont tout sur place. Et c'est ce que je trouve un petit peu dur d'ailleurs parfois pour certaines femmes qui ont des cancers en France, des cancers gynéco ou du sein, parce qu'on leur fait congeler leurs ovocytes et en fait après elles ne peuvent pas les utiliser parce que la GPA est interdite et leur cancer est peut-être hormonodépendant ou des choses comme ça. Et donc elles ont leurs ovocytes et elles ne peuvent rien en faire. Et donc nous c'est là qu'on a eu de la chance en fait d'être conseillées et de pouvoir faire tout là-bas et comme ça au moins... Bon, après, moi, j'ai un traitement qui me permet, si je veux congeler de nouveau mes ovocytes, je peux le faire. Donc, j'ai cette chance-là. Mais elles, parfois, elles ne peuvent pas renouveler cette procédure. Et donc, voilà. Donc, pour en revenir donc, à ma tête, on découvre des métastases à la tête qui, en fait, étaient déjà présentes depuis le début, mais qu'on ne voyait pas encore à la radio. Hein. Donc là, il faut que je change de traitement et que je prenne un traitement qui passe beaucoup mieux la barrière hématoencéphalique pour atteindre la tête. Je change de traitement. 2 mois plus tard, elles avaient complètement, elles avaient bien diminué, donc je répondais quand même, j'étais assez sensible au traitement. En octobre, l'avocat nous rappelle, donc on renvoie un mail à la clinique pour dire qu'on est de nouveau prêt, etc. Et là, entre temps, notre mère porteuse qu'on avait choisie, mais pour laquelle on n'était pas plus emballée que ça, avait quitté la Grèce. En fait, elle aurait aimé en fait que ça commence directement. Et là, notre avocat, donc on était vraiment triste de savoir qu'on n'avait plus de mère porteuse. Donc notre avocat nous appelle un jour et nous dit, écoutez, venez, prenez le premier avion, venez, j'en ai une super, il faut que vous la rencontriez absolument et tout. Elle s'appelle Julia, elle a 30 ans, 3 enfants, il faut que vous veniez la voir et tout. Donc là, avec Alexandre, on est super contents, donc on prend un vol. Il faut pouvoir être assez souple au niveau de son emploi du temps pour se lancer dans ces démarches. Donc, on repart à Thessalonique. Donc là, je me souviendrai toujours, on était sur les canapés de la clinique du hall. Et moi, il y avait plusieurs personnes et je vois une femme hyper douce, souriante, qui portait la bienveillance sur son visage. Et je regarde Alexandre, je dis, mais t'imagines si c'est elle, ça serait super, parce qu'elle a l'air bien. Enfin, il y a des gens... Moi, je m'emballe toujours très vite. Mais il y a des gens, en fait, on le voit au premier regard, en fait. Il y en a certains, c'est... Et là, en fait, l'avocat arrive, nous salue, et là, il salue bah, justement cette dame, et c'était Julia. Donc là, on a vraiment eu un coup de cœur pour Julia, parce qu'elle nous correspondait beaucoup plus, c'était vraiment... elle nous correspondait plus, elle fumait pas, elle buvait pas, elle avait une hygiène de vie, elle avait ses enfants, son mari, enfin, elle était vraiment dans une ambiance saine, Et en plus, quand elle m'a laissé son numéro de téléphone, directement, elle m'a laissé son numéro de téléphone pour qu'on puisse communiquer par Viber. C'est elle qui m'a demandé. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, parce qu'il y a quand même la barrière de la langue. Donc, c'était chouette qu'elle puisse... qu'elle s'intéresse à me donner... Enfin, qu'elle me donne son numéro de téléphone. Et puis, elle me fait un petit cœur en dessous. Elle avait l'air touchée par notre histoire, tout ça. Donc, en fait, là, on est parti vraiment le cœur plus léger, parce qu'on s'est dit, là, c'est vraiment la bonne. Et ça va le faire. Et ça va être super. Donc suite à ça, il y avait encore de l'administratif à faire parce que donc c'est quand même moins long qu'une adoption, mais ça peut aller assez rapidement hein, si tout est bien, si on connaît tous les papiers qu'il faut apporter, qu'on fait tout, qu'on regroupe tous les rendez-vous entre le notaire, la psychologue, l'avocat, parce que déjà faut être marié pour faire ou paxer. C'est pas ouvert aux couples homosexuels par contre en Grèce. Donc ils sont ouverts pour les couples hétérosexuels, mais pas pour les couples homosexuels. Donc, en fait, au niveau de l'administratif, on avait encore un rendez-vous devant le tribunal grec. Donc là, c'était vraiment indépendant de la clinique. Donc, moi, je suis allée à ce rendez-vous. Donc, on a une convocation. On met à peu près 3 semaines à avoir cette convocation. Je me suis rendue donc, au tribunal avec ma meilleure amie. Alexandre n'avait pas besoin de venir. C'était l'un des deux membres du couple. Et qui a témoigné donc, sur la Bible qu'il n'y avait pas de rapport d'argent entre la mère porteuse et nous, qui a témoigné aussi de pourquoi on avait besoin de faire une GPA, donc que j'étais malade, voilà, devant plusieurs personnes au tribunal, pour que le tribunal grec donne son accord pour la GPA. Donc en Grèce, c'est pas au black, hein, c'est quand même très cadré. Bon, évidemment, c'est un petit peu hypocrite parce que je pense que tout le monde sait qu'il y a quand même un rapport d'argent. La mère porteuse, nous, on l'avait payé 25 000 euros. Elles mettent à peu près toutes le même prix.
Après, qui définit le prix, ce sont les mères porteuses ?
La clinique et la mère porteuse. Je pense qu'il faut... Enfin, et puis moi, d'un côté, je trouve ça normal, en fait, de dédommager la mère porteuse, parce que c'est quand même dur. Enfin, pendant 9 mois, elle porte le bébé de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est sûr que c'est un travail un peu particulier, mais en même temps... quand ça se passe bien, bah, finalement, on se rend compte que ça peut être très sain. Mais au total, en fait, la GPA, au niveau finance, elle nous a coûté de 55 000 euros. Parce qu'il y a la clinique, il y a l'accouchement. Donc, c'est une clinique privée au moment de l'accouchement, évidemment. Il y a tous les papiers, les traductions des papiers, de l'acte de naissance, les vols aller-retour, les Airbnb. Donc, c'est vrai que c'est quand même un budget à prendre en compte. Et donc, pour en revenir au tribunal, donc là, ma meilleure amie témoigne. Et puis, en fait, on apprend quelques temps plus tard qu'on a l'accord. Donc, on peut démarrer. Il faut vraiment avoir l'accord pour démarrer, en tout cas, l'implantation de la mère porteuse.
Comment vous sentiez, ton chéri et toi, quand vous avez eu la réponse ?
En fait, on était plutôt confiants. Parce qu'on s'est dit, il nous est arrivé tellement de tuiles que le bébé sera parfait et ça passera et tout sera parfait. Mais on a ce côté... c'est vrai que... ça peut parfois peut-être nous porter préjudice hein, d'être trop optimiste, mais moi j'ai ce côté où vraiment je me dis c'est bon quoi. Enfin là, le cancer généralisé à 26 ans, maintenant la vie elle va nous sourire, tout va être beau. Et bon, en fait, pas forcément toujours, mais, mais souvent quand même. Et donc, parce qu'il nous est arrivé vraiment des choses, enfin ce serait trop long de te raconter, mais malgré tout, en fait, pendant toute cette période, on a eu des choses assez merveilleuses qui nous sont arrivées. Et à la fois des gros malheurs et des grosses joies, des gros moments de bonheur. Donc en fait, voilà, la vie c'est vraiment des hauts, des bas. Nous c'est vraiment ça, quoi. C'est pas, on peut pas avoir une vie un peu plus basique. C'est des très hauts, des très bas.
L'ascenseur émotionnel.
Ah ben ça c'est évident. Puis dans cette maladie encore plus du coup, parce qu'à chaque, j'ai des bilans tous les 3-4 mois, tous les 4 mois. Donc là, c'est sûr que l'ascenseur émotionnel il est bien présent. Et donc, quand on a eu l'accord, très vite, en fait, un mois après ou 2 mois après, la mère porteuse a été implantée. Donc, c'était en janvier-février 2018. Et là, donc nous, entre-temps, on achète un appartement, on fait des travaux. Donc, on avait la tête bien occupée. Mais en même temps, on se projetait à 400%, quoi. On vivait la grossesse à distance. Moi, entre deux patients, parfois, je recevais des échographies. Donc, je regardais, j'étais toute... c'était, elle nous envoyait tout, en fait, Julia, au fur et à mesure. Elle m'envoyait des petits smileys. Comme je ne suis pas très douée en anglais, du coup, c'était plus un dialogue de smiley. Mais bon, c'est très utile. Et
vous êtes allée la voir pendant la grossesse ?
On n'est pas allé tant que ça la voir. On est allé la voir, en fait, à l'écho des 6 mois.
D'accord.
Et sinon, on l'avait vue, ouais, on communiquait beaucoup par Viber, en fait.
Comment vous avez appris le sexe du bébé ?
Et ben, donc elle était enceinte de 2 mois, on était dans le train, et là, je reçois un message sur Viber, it's a boy, voilà. Et alors là, je me dis, oula, 2 mois, ils savent déjà le sexe, bon, ok. Donc là, Alexandre était heureux, on aurait été aussi heureux si c'était une fille, mais c'est vrai que là, le fait que ce soit un petit mec, quand même, il était super content. Et donc, c'est vrai qu'on se projetait beaucoup, en fait, pour cette première grossesse, parce que finalement, en fait, donc à chaque fois, déjà... Lorsqu'on a moins de 30 ans, en Grèce, ils implantent 2 ovocytes, pas plus. Entre 30 et 40 ans, ils peuvent en implanter 3, et 40 et 50, 4.
D'accord.
Donc nous, c'était 2 max. Donc moi, j'aurais rêvé d'avoir des jumeaux. Avec du recul, maintenant, je me dis que 1, c'est peut-être bien, 1 par 1. Mais, et donc, en fait, donc un bébé avait pris, l'autre n'avait pas pris. Au bout de 2 mois et demi, on part en vacances à La Réunion. Et là, on reçoit un message. C'est assez troublant parce qu'on était chez des amis à La Réunion, donc on se baignait, tout ça. Et moi, tout d'un coup, j'ai un mal de ventre. Mais ça m'est arrivé jamais. Enfin, ça m'arrive vraiment pas souvent d'avoir mal au ventre. Et là, j'ai vraiment un mal de ventre bizarre. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. Et donc, je vais voir mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais voir mon téléphone. La mère porteuse, elle ne me donne pas des nouvelles tous les jours. Julia, elle me donnait des nouvelles toutes les 2 semaines ou des choses comme ça. Je ne voulais pas la harceler parce que je voulais respecter aussi. Voilà, c'était elle qui choisissait le rythme. Et là, j'ai un mal de ventre. Je vais voir mon téléphone et je reçois un message de Julia. Je saigne, je vais à la clinique. Je vais, oh, c'est pas vrai. Et en fait, une semaine plus tard... Et ça m'a toujours troublée. Pourtant, je ne suis pas du genre à croire à toutes ces choses. Mais au final, là, ça a quand même fait... ça m'a fait bizarre. Et une semaine après, on apprend qu'elle fait une fausse couche. Donc, elle perd le bébé. Donc, la première fausse couche. Donc, elle a évité quand même le curetage. Et 1 mois ou 2 mois plus tard, ça s'est fait super vite, je crois, 1 mois et demi plus tard, elle a pu de nouveau être implantée. Et donc, la mère porteuse, pendant la fausse couche, elle était vraiment mal, quoi. C'était mes condoléances, elle était vraiment malheureuse. Elle veut que ça marche, en fait. Hein. Elle n'a qu'une envie. En fait, elle, son plus gros stress, en fait, le plus gros stress des mères porteuses, quand on parle avec elle, c'est que les parents ne prennent pas l'enfant. Et que tout se passe bien, en fait. Elles veulent que l'enfant soit en bonne santé, que tout soit... Alors que les gens qui ne font pas de GPA, très souvent, leur plus grosse frayeur par rapport à tout ça, c'est que la mère porteuse parte avec l'enfant. Alors que... En réalité, c'est pas du tout le cas. Enfin, en tout cas, la majeure partie du temps, c'est pas le cas, en fait. Et, bon. Et donc, 1 mois et demi plus tard, elle est de nouveau implantée. Donc, ils remettent 2 embryons. On avait au total 5 embryons. Donc, il nous en restait 3. Donc, elle en remet 2. Et là, sur les 2, il y en a qu'un qui prend aussi. Je me trompe, en fait, le garçon, c'était au 2e embryon. Et ça, tu vois, je me perds. J'ai pas une bonne mémoire. Et donc, un petit garçon. Donc, la grossesse, pour le coup, pour cette 2e grossesse avec Alexandre, on a vraiment pris beaucoup de distance. On était dans nos travaux. On n'a pas fait la chambre de l'enfant trop tôt. On s'est vraiment... là, on n'a pas voulu se projeter parce qu'on s'était tellement projeté la première fois que la déception avait été encore plus grande que... Voilà, on est resté très... On a fait cette distance, cette grossesse vraiment à distance. Et bon, par contre, non. Après, donc, on s'est mariés, en fait. Et donc là, c'était assez drôle parce que la préparation au mariage, c'était un mariage religieux. Donc la préparation au mariage, nous, on avait déjà un bébé en cours de GPA en Grèce. Donc c'était un peu... la situation était atypique, on va dire. Donc les prêtres savaient notre histoire. Et le prêtre, à la fois le prêtre qui nous a mariés et celui qui nous avait préparé au mariage, nous soutenait un petit peu et il nous encourageait pas à faire une GPA, hein, bien sûr, mais il nous jugeait pas en tout cas et il comprenait en fait. J'avais vraiment l'impression qu'il nous comprenait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette de la part de l'Église. Enfin, je pense que tous les prêtres, on a eu de la chance de tomber sur des prêtres vraiment compréhensifs. Et donc ça, on a vraiment apprécié. Et donc lors du mariage, donc on a fait un super mariage, toute l'émotion qu'il fallait, avec tout ce qu'on avait vécu, je pense que là, on était... et donc, notre petit Gaspard est né 4 mois après le mariage, du coup, il est né en mars. Donc, il est né le 5 mars. Et donc là, on est retourné. En fait, il faut savoir que pour la GPA, du coup, il déclenche la mère porteuse. Donc, toute la grossesse s'est vraiment bien passée. Quand on est allé la voir à 6 mois, elle était vraiment sereine, elle souriait. Enfin, et ça, c'était un réconfort pour nous parce qu'on s'est dit, c'est quelqu'un qui vit bien ses grossesses déjà. Et, enfin, ces 3 grossesses étaient bien passées. C'est vrai que ça ne veut pas toujours tout dire. Hein, mais en tout cas, ces 3 grossesses étaient bien passées. Et là, ça se passait bien. Et donc... ça, c'est plutôt réconfortant.
C'était la première fois qu'elle était mère porteuse, tu le sais, ça ?
Alors, ouais, elle était donneuse d'ovocytes, à la base. Et ensuite, elle a essayé d'être mère porteuse pour un couple, une dame qui avait eu un cancer du sein, mais un couple de plus de 40 ans. Mmh. Et je crois que l'embryon était pas... enfin, ça n'avait pas pris, ça n'avait pas marché. Et donc après, elle est venue avec nous. Donc elle avait tenté, mais je crois qu'il y avait eu une fausse couche très rapide. Mais pour elle, c'est pas évident hein, de faire des fausses couches quand même. Après, dans la clinique, elle est vraiment bien. Ils sont vraiment très soutenus, très. Elles sont vraiment bien prises en charge. Donc, et donc nous, on y est retourné donc à 6 mois. On n'y était pas allé durant la grossesse. On communiquait simplement par Viber. Et à 6 mois, donc on retourne à Thessalonique pour l'échographie donc des 6 mois. Et alors là, c'était assez drôle parce que l'échographie se passait pas dans la clinique habituelle, mais dans une autre clinique avec un médecin, un autre médecin, c'est l'échographie morphologique, je crois. Mmh. Enfin, il revérifiait tout quoi. Et alors là, donc il y avait le gynécologue, son assistant, il y avait Alexandre, la mère porteuse, il y avait notre traductrice Artemis de la clinique. Enfin, il y avait un monde fou en fait dans la salle. Donc c'est vrai que j'ai pas ressenti d'émotion en fait parce qu'il y avait tellement de monde. Déjà, le gynécologue, quand il nous a vus tous débarquer dans la salle, il était il se demandait ce qui se passait. Parce que même si c'est légal en Grèce, c'est pas tous les jours quand même hein, qu'il y a des GPA. Et donc là, il n'y avait pas forcément d'émotion, finalement. J'avais presque plus d'émotion quand je regardais la petite écho sur mon téléphone que je recevais, que j'étais toute seule à la regarder ou avec Alexandre. Et donc, on est revenu 3 mois plus tard parce qu'ils ont déclenché l'accouchement. Parce que ça se passe comme ça pour mieux gérer un petit peu le... Enfin, 10 jours avant le terme, en fait, il déclenche. Et donc, la mère porteuse a choisi d'accoucher par voie basse. Mmh. Donc, le gynécologue était d'accord. Et donc, moi, j'ai... En fait, en Grèce, il y a une personne qui peut assister à l'accouchement. Parce que, bon, normalement, la femme, en même temps, c'est celle qui accouche. Donc, donc là, il n'y a que moi qui suis allée comme je suis une femme. Et comme ça, on était entre femmes. Et donc, Alexandre, lui, il a trouvé le temps un petit peu long pendant l'accouchement parce qu'il était... il attendait avec la traductrice, Artemis. Dans le hall, en fait. Donc, c'était pas simple. Et heureusement, ça a été très rapide. Donc, en fait, c'est moi qui assistais à l'accouchement. Mais juste avant l'accouchement, moi, je faisais le décompte sur Instagram. Dilatation du col, 3 cm. Dilatation du col, 8 cm. Donc, il y avait tout le monde qui était au taquet avec nous sur Instagram. C'était vraiment super sympa. Et donc là, à 8-9, je commence à mettre la tenue, à assister à l'accouchement. Et donc, je la rejoins parce qu'elle voulait faire sa préparation vraiment toute seule. Vraiment, la sage-femme nous disait qu'elle était hyper courageuse, vraiment. Et donc, j'assiste à l'accouchement. Elle pousse 4 fois et Gaspard sort, quoi. Ça a été hyper rapide. J'ai pas vu beaucoup d'accouchements dans ma vie, mais là, franchement, ça s'est vraiment bien passé. Et à la fin, donc on a fait une photo, elle me mettait la main dans le dos, enfin, elle a pris le bébé 15 secondes, puis après ils ont dit, mais non, c'est elle la maman.
Et c'est ça, qui fait le peau à peau dans ces cas-là, en fait, quand le bébé sort?
On n'a pas fait trop de peau à peau, c'est vrai que peut-être que j'aurais bien aimé, mais bah, j'étais habillée. Tout simplement. Mais en tout cas, elle n'a pas fait de peau à peau, évidemment. Mais je pense que. Elle voulait aussi le voir quand même. À chaque fois, elle me demandait des photos. Quand on se prenait en photo tous les 3 lors de sa grossesse, là, pendant les 6 mois, enfin au 6e mois, on avait fait une photo parce que moi, je faisais des photos pour mon blog à côté, enfin pour mon groupe Facebook. Et elle voulait à chaque fois que je lui envoie la photo. Enfin, c'était pas, elle en avait pas rien à faire, quoi. C'était, oui. Elle nous envoyait quand il neigeait à Thessalonique une petite photo de sa maison sous la neige. Enfin, c'était et donc à l'accouchement, donc c'est moi qui ai coupé le cordon. Donc, j'ai fait un geste quand même symbolique. Et Et donc là, j'ai pris le bébé, puis je suis allée le montrer à Alexandre très vite parce qu'il s'est impatienté. Là, Alexandre lui a chuchoté à l'oreille qu'il était fier de lui, tout ça. C'était assez émouvant. Et en fait, en Grèce, les bébés restent en nurserie. Donc nous, on est allés dans une chambre et on avait pris une chambre aussi pour Julia. Et on donnait les biberons à chaque fois. Ils nous apportaient Gaspard pour... Déjà, il est resté 3-4 heures sans prénom parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord, pour tout se dire. Parce que tous les deux, on est tous les deux assez compétiteurs et tout. Hein. C'est même un peu l'amour vache parfois. Mais donc, il n'avait pas de prénom. Moi, je voulais Marceau. Lui, il voulait Octave. Donc voilà. Donc à un moment donné, on s'est dit, non mais là, il faut qu'on trouve un prénom. On commençait à recevoir des messages, alors, parce que tout le monde suivait ça, notre famille, tout ça. Donc Gaspard part, une fois qu'on avait trouvé son prénom au bout de 3-4 heures, Gaspard retourne en nurserie. Nous, on n'avait qu'une envie, c'était de retourner dans le Airbnb, dans le centre de Thessalonique qu'on avait réservé, parce que la clinique, c'était pas dingue. Et puis, on revenait voir Gaspard en journée, parce que la nuit, de toute façon, Gaspard restait en nurserie. Donc ils veulent vraiment que celle qui a accouché prenne soin d'elle. Donc, en l'occurrence, bon, c'était pas moi, mais j'ai l'impression qu'ils avaient l'impression que c'était moi, en fait, parce que les infirmières me prenaient ma tension, me demandaient comment ça allait. On a essayé de leur expliquer une fois, deux fois, mais il fallait pas les perturber dans leur travail. Donc, je me laissais prendre la tension, comme ça, c'était l'occasion pour moi de vérifier un petit peu ce qu'il en était. Et le soir, en fait, Julia est venue nous voir, donc il n'y avait pas Gaspard. Elle nous a demandé une photo de l'accouchement, une vidéo de la vidéo de l'accouchement, parce que j'avais fait une petite vidéo sur la fin. Et elle voulait montrer à ses enfants aussi, hein, tout ça, pour leur expliquer. Et je pense que c'est bien avec du recul, parce que pour ses enfants, c'est pas facile non plus de voir leur maman enceinte, et puis tout d'un coup, plus rien. Et je crois même qu'à une échographie, elle était venue avec sa fille, parce que j'entendais une petite voix. Enfin, je sais pas trop, mais je crois. Et du coup, au moment de... Donc, elle est venue nous voir, on s'est serré dans les bras, c'était hyper émouvant. Elle nous a demandé comment on l'avait appelé, donc on lui a dit Gaspard. Elle nous a regardé avec une tête, je pense que ça doit pas être un prénom grec. Je sais pas, il aurait fallu Zeus ou Artemis. Mais je sais pas, Gaspard, ça ne parlait pas trop à Julia, mais bon. Et le lendemain matin, elle a dormi à la clinique, et le lendemain matin, elle avait qu'une envie, c'était de retrouver sa famille, hein, quand même. Donc elle est revenue nous dire au revoir et elle est partie. Elle marchait déjà, enfin, il n'y avait pas de souci, quoi. Et après, elle a eu un contrôle, je crois, quelques semaines plus tard à la clinique, et tout allait bien.
Et c'est la dernière fois que vous l'avez vue ?
Ouais, c'est la dernière fois le matin qu'on l'a vue, parce qu'on s'était mis d'accord, chacun retrouvait sa petite... Enfin, elle retrouvait sa famille, et on n'a pas parlé, en fait, de... Elle voulait pas forcément garder contact après, elle voulait retrouver sa famille. Et nous, dans le fond, je pense qu'Alexandre était content aussi que bah, nous, on mette ça de côté... Mais si un jour Gaspard veut voir Julia, on la recontactera. De toute façon, on a ses coordonnées. Et voilà. Mais par respect pour elle et pour sa famille, on n'a pas. C'est vraiment elle qui choisit. Moi, je trouve ça bien aussi, hein, parfois, quand les couples restent en contact avec leur mère porteuse. Parce que c'est beau, hein, c'est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup d'abnégation pour porter le petit être, un petit être d'un autre couple. C'est assez fou, en fait. Mais dans notre cas, c'est vrai que c'était en plus notre patrimoine génétique, tout ça. Donc, elle a voulu ça, donc c'est elle qui choisit. Et donc, nous, on est rentrés dans le Airbnb qu'on avait loué. Donc, on avait les papiers à faire. Donc, il y avait l'acte de naissance. Donc, sur l'acte de naissance grec, il y avait le nom d'Alexandre et le mien. Par contre, en France, comme c'est celle qui accouche qui est reconnue comme la maman, moi, je ne figure pas sur la transcription, Donc là, on est retourné dans le Airbnb, puis il y avait toute nos familles qui arrivaient. C'était un moment familial vraiment très intense. Tout le monde a débarqué dans le Airbnb pour voir Gaspard. Et voilà.
Et vous êtes resté combien de temps en Grèce suite à l'accouchement ?
Alors, on avait prévu d'y rester. Moi, j'avais prévu d'y rester un mois et demi. Et en fait, on a eu beaucoup de chance. On a pu rentrer au bout de 20 jours.
D'accord.
Parce que pour rentrer en France, en fait, il fallait bien qu'il ait un passeport ou des papiers, Gaspard. Donc en fait un passeport ça met 3 semaines évidemment à faire, donc on a, comme c'est un enfant né de parents étrangers, il fallait qu'on aille à Athènes, donc Athènes c'est à 6h ou 7h de route de Thessalonique, donc on a dû prendre l'avion pour aller à Athènes et il fallait aller à l'ambassade d'Athènes, on pouvait pas faire ça sur place, donc on est allé à l'ambassade d'Athènes avec Gaspard qui dormait comme un bébé, point fermé dans l'avion, pas de soucis. Et donc, on devait avoir nos actes de naissance, la traduction de l'acte de naissance de Gaspard, l'acte de naissance d'Alexandre, le mien, enfin, plusieurs papiers, notre livret de famille, des photos de Gaspard. Donc ça avait été costaud, les photos de Gaspard, parce qu'il y a des photos d'un bébé qui vient de naître et en plus qui naît 10 jours avant le terme. Donc clairement, il n'ouvrait pas les yeux. Donc ça a été l'horreur. On l'a torturé, le pauvre, pour qu'il ouvre ses yeux. Et arrivé à l'ambassade, donc on a expliqué notre histoire et je pense qu'ils ont été touchés et ils nous ont vraiment aidés parce que au lieu d'attendre 3 semaines un passeport, ils nous ont donné un laissez-passer pour Gaspard, comme lorsqu'on se fait voler ses papiers et qu'on a le droit à un laissez-passer là pour circonstances exceptionnelles. Et donc on a eu le droit à un laissez-passer et en fait il fallait qu'on prenne notre billet d'avion par contre directement à l'ambassade parce que le laissez-passer c'est pour telle date, tel vol. Donc on avait notre petit laissez-passer, donc on est rentré plus tôt finalement que ce qui était prévu. Et on est rentré tous en famille parce qu'au départ, Alexandre devait rentrer plus tôt pour son travail. Et moi, je suis plus souple au niveau de mon travail, donc comme je suis en libéral, je pouvais... Mais bon, à un moment donné, il faut quand même travailler parce que là...
Rembourser tous ses frais.
Tous ses frais. Oui. Les robes, Gaspard, bébé le plus cher de la Terre, là. Il va être privé de cadeaux de Noël pendant 3 ans, là, je pense. Ou à vie, le pauvre. Pas de petite souris, pas de Noël, pas de... Non, mais...
Et alors, comment ça se passe quand vous rentrez en France ?
Quand on rentre en France... Alors déjà, on passe en VIP hein, avec notre laissez-passer. Et puis là, avec un bébé, c'est génial hein, quand même. Rien que pour ça, j'ai presque envie de voyager avec une poussette vide. Non, mais... donc, on rentre en France et très vite, on va voir le pédiatre quand même pour faire les choses dans l'ordre. Et très vite, Alexandre fait un passeport, s'occupe du passeport pour Gaspard parce que moi, j'ai aucune reconnaissance pour l'instant. Hein, Encore aujourd'hui, je suis pas la maman, en fait, pour l'État français. C'est mes ovocytes qui ont fait ce petit bonhomme, mais j'ai aucun droit. Enfin, voilà, j'ai pas de... Parce que c'est vraiment la femme qui va accoucher qui est reconnue comme la maman en France. Alors que sur l'acte de naissance en Grèce, je suis la maman. Donc, c'est ça qui est fou. Et donc, on a toute une démarche à faire, là, maintenant, en France. Donc, là, déjà, j'ai pris le nom de mon mari. C'est déjà un grand pas. Et maintenant, il nous reste... Il y a 2 options, soit on l'adopte, soit je l'adopte, je veux dire. Soit, apparemment, là, il y a eu un cas à Nantes d'enfant comme ça qui a pu être reconnu sans adoption. Donc, on va se lancer dans tout ça, là, cet été. On avait d'autres choses à faire. Il fallait le présenter à tout le monde, cette petite merveille. Donc, voilà, ça s'est passé à peu près comme ça.
Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman ?
Est-ce que je me suis sentie à l'aise dans mon rôle de maman ? Bah, franchement, oui. Pour moi, c'était naturel, en fait. Je me suis toujours dit, de toute façon, les femmes, elles sont mamans depuis la nuit des temps et je me pose pas de questions, en fait. Je fonce, parfois un peu trop, peut-être. Mais... Et donc, ça s'est fait, mais ça a pas bouleversé notre foyer où c'était que du bonheur, en fait, que du positif. On était mais tellement heureux, il n'y a rien qui pouvait entacher ce bonheur. Et puis, en plus, il faut dire qu'on a de la chance parce que Gaspard est vraiment un bébé cool pour le moment. Il a dormi très vite. Là, il dort 12-13 heures. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Il mange bien, il dort bien. Et là, il commence à faire des petits sourires.
Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Plus d'organisation, il faut se lever plus tôt le matin. Non, je plaisante. Qu'est-ce que ça a changé ? Bah, du coup, nous, ça nous fait vraiment... En l'occurrence, dans notre histoire, ça nous fait penser à l'après. Donc, c'est merveilleux. Et puis c'est quand même super chouette d'avoir un petit comme ça. Bon, il ressemble un peu trop à Alexandre. À un moment donné, je me suis demandé s'ils n'avaient pas oublié mon ovocyte dans l'éprouvette. Mais là, il commence à me ressembler. Donc, qu'est-ce que ça a changé ? Que du positif, en fait. Enfin, nous, après, on est des parents plutôt cool. Donc, on n'adapte pas notre planning en fonction de Gaspard. C'est vraiment lui qui s'adapte et il s'adapte plutôt bien. Donc, c'est lui qui... Voilà, si on veut voyager, il nous suit. Si on veut... De toute façon, il a pris l'avion à 1 semaine et 3 semaines de vie, donc je pense que... Non, mais on verra comment ça se passe, mais c'est vrai qu'on ne veut pas être esclave de notre enfant et on veut continuer tous nos projets. En plus, moi, avec ma maladie, j'en ai 4 fois plus qu'avant, donc déjà qu'avant, j'en avais beaucoup, là. Là, je suis fatigante, apparemment.
Mm-hmm. Mais... qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui sont contre la GPA ?
Qu'est-ce que j'aimerais dire aux personnes contre la GPA ? Peut-être je sais pas si je pourrais les faire changer d'avis, c'est pas le, non plus le but, mais qu'ils entendent au moins, qu'ils entendent un autre témoignage que ceux qui peuvent voir parfois à la télé et qui peuvent être même terribles. Enfin, moi, la GPA, je suis pas pour toutes les GPA. Moi, je suis pour... déjà, je distingue vraiment la GPA éthique de la GPA non éthique. Pour moi, la GPA non éthique, c'est lorsque c'est pas cadré, lorsque c'est fait dans des conditions qui sont pas saines. Nous, notre GPA, c'était vraiment très sain. Et donc, pour moi, c'est une GPA éthique dans un pays légal, avec avocat, avec test psychologique, avec notaire, avec tribunal. Enfin, vraiment cadré. Il y a pas de... La mère porteuse peut pas partir avec l'enfant, peut pas... Enfin, et puis, il y a une vraie relation qui s'est créée. C'est pas une esclave. Hein. C'est pas, elle loue pas son ventre. On ne l'a pas considérée comme ça. Et je pense pas qu'elle... Parce qu'il y en a qui ont des mots vraiment durs, en fait, sur la GPA. Et ça, ça me rend vraiment triste, en fait. J'aimerais vraiment que les gens ouvrent un petit peu, comprennent et n'attendent pas forcément d'être confrontés à une situation pour la comprendre. Notre famille, qui d'ailleurs, initialement, n'était pas forcément favorable à la GPA. Hein, c'est... Ouais. Que je dis souvent, au final, dans la famille d'Alexandre, ils étaient opposés à la GPA. Enfin, c'est nouveau, hein, donc... Et dans ma famille, moi, mon père m'avait écrit une lettre de 2 pages pour me dissuader de faire la GPA. Enfin, et tous les amis, on est issus d'un milieu catholique, tous les deux, et étaient contre la GPA. Et en fait, toutes ces personnes, en fait, ce qui est fou, c'est qu'elles ont changé d'avis, enfin, ou elles ont évolué sur leur avis. Et je me souviens qu'au mariage, on nous a même demandé si on faisait une petite cagnotte pour la GPA. Enfin, c'était incroyable. Mmh. Alors que, initialement... Et je trouve ça dommage, dans le fond, que les gens attendent un petit peu d'avoir un proche confronté à ce problème et du coup de réfléchir un peu plus pour avoir un avis. Mais je trouve que critiquer sans arrêt, enfin, il y a un moment donné, chacun fait sa vie, chacun compose avec ce qui lui arrive. Et nous, c'était la solution, en fait. Il n'y avait pas d'autre solution. Ou sinon, on restait sans bébé. Et avec ce qui nous était arrivé, c'est vrai que c'était juste... le bébé, c'était le la cerise sur le gâteau, c'était l'après-cancer et c'était, voilà, c'était important pour nous. Et j'aimerais que tout le monde puisse bénéficier de ça. Et malheureusement, parce qu'en fait, quand on a un cancer, c'est un petit peu, je le répète souvent, mais on est un peu cuit sur toute la ligne, en fait, parce qu'on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. On peut pas acheter, c'est difficile d'acheter quand on a un problème médical de cette importance. On a des traitements, on a des amis qui comprennent pas toujours parce que parfois on est fatigué, parfois on a des traitements, il faut qu'on aille à l'hôpital, tout ça, donc on se préserve, alors que nos amis parfois ils peuvent avoir peur de nous perdre, donc ils veulent tout le temps nous voir, alors que nous on veut justement se ménager par rapport au stress, à la fatigue, prendre soin de nous, de notre famille. Moi je suis la première à sortir, mais c'est vrai que de plus en plus maintenant je me dis ben, faut que je pense aussi à moi et donc faut que j'apprenne à sélectionner aussi parce qu'on on connaît beaucoup de monde et avec Alexandre, c'est vrai qu'on a vécu à différents endroits, enfin, différentes villes. Hein. Enfin, lui, un peu plus loin, pas qu'en France. Mais du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup d'amis, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on fasse des choix et ça, on n'arrive pas toujours à le faire. Il faut qu'on se préserve, en fait, et ça, il va vraiment falloir qu'on travaille sur ça parce que moi, je ne sais pas dire non, en fait. Et parfois, là, maintenant, il faut que je pense à ma santé, à mon bébé, à ma famille et à mes amis proches. Et je pense que c'est ce qui compte le plus.
Et tu pourras avoir un bébé un jour
par la suite,
biologique.
Moi, vu la gravité de mon cancer, je pense que je vais probablement avoir un traitement à vie.
D'accord.
Donc déjà, j'ai accepté d'avoir un traitement à vie. Je me suis dit, bon, il y en a qui sont diabétiques, il y en a qui ont de l'asthme. Chacun ses fardeaux. Moi, voilà, j'ai ce cancer. Je vais probablement l'avoir à vie. Il faut que je l'accepte. Et peut-être qu'un jour, vu que ça évolue, il y a énormément d'évolutions, en tout cas même dans mon type de cancer. Donc je crois vraiment, même l'immunothérapie ou la thérapie ciblée, ou qu'un jour vraiment je puisse avoir un traitement qui me guérisse. Je suis profondément convaincue de tout ça, peut-être trop, mais voilà, j'y crois à fond. Et si jamais on peut faire, on peut le faire naturellement, on en fera un deuxième. Évidemment, on a tellement envie d'avoir d'autres enfants, mais on ne veut pas prendre de risques. Donc, si on prend le moindre risque d'arrêter mon traitement pendant 3 mois, le temps de l'organogénèse du bébé, tout ça, s'il n'y a pas trop de risques, on le fera. Mais s'il y a le moindre risque, on refera une GPA.
Donc. On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Ok, je t'écoute.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
J'ai l'impression que les mamans parisiennes, c'est un peu des Wonder Woman. Elles doivent tout gérer parce que le rythme est tellement intense. Souvent, c'est des mamans actives. Très souvent, elles travaillent, elles doivent mener leur vie de famille, leur vie professionnelle, parce qu'elles, je sais pas, moi je sais que je suis assez carriériste aussi, donc, mais bon là je vais me forcer à ralentir un petit peu, mais une maman parisienne c'est ça, c'est des mamans qui essayent de, qui gèrent beaucoup de choses, qui savent peut-être pas se poser parfois, donc, ça c'est, il faut qu'on travaille sur ça je pense, qui ont une yo-yo ça c'est sûr, et qui connaissent pas forcément le plaisir d'avoir un jardin, d'habiter à la campagne, d'avoir son petit potager. C'est vrai que moi, j'ai vécu à la campagne et je trouve ça merveilleux aussi d'avoir la chance d'avoir un jardin ou d'habiter près de la mer, de pouvoir... et ça, ça me manque à Paris.
Quel est ton endroit kids-friendly à Paris ?
À Paris. Moi, j'adore les bubble tea, donc j'emmène toujours Gaspard, mais du coup, c'est lui qui vient avec moi. c'est pas pour lui. mais c'est vrai qu'on... Je l'emmène souvent en bubble tea, en vrai, dans le quartier de Montmartre, parce que du coup, on habite dans ce coin-là, donc je vais prendre mon bubble tea avec mon petit Gaspard. Bon, après, c'est moi qui m'adapterai à lui, promis.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ceux prévus en famille ?
Alors, mes projets à moi, oulala, vraiment, tu veux savoir ? Alors là, j'ai comme projet de ralentir déjà mon rythme de travail, de bosser 3 jours et demi, parce que pour la GPA, j'ai bossé 5-6 jours, et c'est trop. Et donc je veux prendre davantage soin de moi et de ma famille. Et puis je suis en train d'essayer de créer une marque de robe, parce que de robe, un concept de robe avec les nœuds papillons assortis, et même peut-être le petit accessoire assorti pour bébé. Donc je suis en contact avec un couturier, là on est en train de monter, parce que j'adore tout ce qui est créatif. Et en fait, dans mon métier, en fait, je l'adore. Être dentiste, chirurgien dentiste, j'aime beaucoup le contact avec mes patients et tout ça. Et au niveau technique, tout ça, c'est vraiment un métier qui me passionne, mais pas à temps plein, en fait. J'ai vraiment besoin d'une activité d'un truc créatif à côté. Et du coup, j'aimerais monter... J'adore la mode, donc j'aimerais me lancer là-dedans. Et donc, je suis en train de me lancer. Et voilà. donc ça, c'est les projets qui me concernent. Et avec... mon mari, on a vraiment envie de voyager, pourquoi pas de déménager. Donc en fait, dans 4 ans, on a comme projet de faire le tour du monde avec Gaspard à la voile, si au niveau médical, moi, c'est bon pour moi. De passer du temps, surtout ensemble. Et moi, j'aimerais bien qu'il puisse travailler moins, mais il n'y a pas beaucoup de métiers où on ne peut pas travailler 5 jours. et puis, et dans 5 ans, on aimerait du coup déménager à la campagne, près de Bordeaux, dans le sud, je ne sais pas. Mais moi, je rêverais d'avoir une piscine. Avec un dauphin en plastique dedans. Et je sais pas, une bouée pour Gaspard, une belle bouée. Et voilà, on aspire tous les deux, je pense, à... Là, on prend tout ce qu'il y a de bien à prendre à Paris, mais dans plusieurs années, c'est vrai qu'on aimerait offrir ça à notre fils, une vie plus paisible, parce que c'est quand même très speed, Paris. Et... Voilà. Il y a plein de bons côtés, en fait, partout, hein, mais voilà, je pense qu'on aura vécu 5 ans à Paris, et pour tout ce qui est formation, moi, au niveau professionnel, c'est juste parfait. Il y a tout à Paris, au niveau culturel, il y a tout. Mais après, le calme de la campagne aussi, ça nous tente bien.
Merci beaucoup, Camille.
Merci à toi, c'était un plaisir.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Camille, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 32 sur Instagram, grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast, et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.